Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis à Pierrefonds, au rucher d'Eugénie, en compagnie de Paul Crubillet, qui va nous expliquer les menaces auxquelles sont confrontées les abeilles.
La menace qu'on craint à cette saison-là, c'est le frelon asiatique. Alors cette année, les mauvaises conditions pour les abeilles, pour tous les pollinisateurs, pour beaucoup d'insectes, font que ça n'a pas beaucoup réussi au frelon asiatique. Pour l'instant, on n'en voit pas. Et là, on n'en voit pas sur les ruches non plus. Hein. Il y a 2 ans, il y en avait 3 devant chaque ruche. Quoi.
Tu veux dire trop d'eau ? C'est quoi le...
Oui, alors je pense que... Le printemps froid, ça a dû retarder le démarrage des colonies, parce que là aussi, c'est une colonie annuelle, donc qui part avec un seul individu qui est la reine fondatrice, la pondeuse, et qui va arriver à 2000 individus quand le nid est bien développé, mi-août, fin août, début septembre, et où la population elle va être multipliée par 2 ou 3 tous les à peu près 15 jours. Mais en fait, ce qui compte, c'est plutôt le cycle pour l'abeille. Entre la ponte et la naissance de l'abeille, c'est 20 jours. Pour le frelon, c'est 40. Donc la progression, elle est très rapide. C'est plutôt par cycle. Je pense que ça doit être multiplié par 5 ou par 7 ou par 8. Mais s'il lui manque un cycle, on va avoir des nids maintenant qui sont peut-être, comme on n'en voit pas, ils sont peut-être à 200, 300 individus au lieu d'être à 2000. Et ça fait 10 fois moins de frelons. Quoi.
Ouais. Donc du coup, toi, tu n'as pas eu de problème de frelons cette année
pour l'instant, je n'en ai pas vu en fait. Hein. Je n'ai pas vu de frelons asiatiques.
Il les décime en fait.
Alors,
il les mange,
ce qui se passe, c'est que le frelon asiatique, il va se mettre devant la ruche, hein, à peu près. Là, je me mets là, à peu près là.
Ouais.
À 30 cm au-dessus de la sortie, à 20 cm, 15 cm, 20 cm devant. Et il regarde les abeilles qui rentrent. Parce que quand elles rentrent, les butineuses qui rentrent, elles sont alourdies. Hein, elles ont leur charge utile, c'est l'équivalent de leur poids à vide. Quoi. Donc elles ont doublé de poids. Hein. Ça pèse 1/10 de gramme, une abeille. Et donc, elles ont en plus 1/10 de gramme de pollen ou de nectar. Et donc, elles sont fatiguées, elles sont trop lourdes, donc elles ont du mal à manœuvrer. Et c'est à ce moment-là qu'ils essayent de les prendre, parce
évidemment.
Que voilà, c'est le plus facile.
Elles sont amoindries.
Et voilà, en termes de manœuvrabilité, elles sont pas au top. Et donc, il va s'installer devant. Et ce qu'il y a, c'est qu'il va provoquer un stress de la colonie, parce qu'il y a de la prédation directe, mais il va provoquer un stress de la colonie. Et les abeilles vont finir par ne plus sortir s'il y a beaucoup de frelons, et par plus aller chercher à manger, donc plus aller chercher ni nectar, ni protéines.
Ça fout en l'air une ruche, ça, en fait, carrément.
Oui, parce que la ruche, en fait, s'il y a plus de nectar qui rentre, les réserves elles diminuent. À la limite, on peut nourrir si on s'en aperçoit au sucre, mais il ne va pas y avoir non plus de protéines qui rentrent. Donc l'élevage va s'arrêter. Et si l'élevage s'arrête maintenant, en septembre, il va falloir qu'elles élèvent les abeilles d'hiver. Elles vont passer l'hiver. Et donc, il faut une population assez forte déjà à ce moment-là. Parce que sinon, si au lieu d'y avoir là, je t'ai dit, il y a à peu près 30 000 abeilles dans la ruche là, elle va peut-être diminuer encore un peu à 20 000. Elle est forte celle-là, elle est belle. Hein. Mettons qu'il y ait 20 000 abeilles, ça va, c'est pas mal. Mais ensuite, il faut qu'elle reponde quand même pour avoir encore 20 000, 25 000 abeilles d'hiver pour arriver ensuite au printemps avec 7 000, 8 000 abeilles peut-être de cet ordre-là. Maintenant, si elles sont 5 000 début septembre, il va y avoir 6 000 abeilles peut-être. Et puis la ruche, elle va s'éteindre. Elle va s'éteindre à Noël parce qu'elle ne va pas pouvoir redémarrer la ponte, ou il va y avoir si peu d'abeilles qu'elles vont mourir de froid.
Et quelles sont les autres menaces pour les abeilles?
Ensuite, les autres menaces, alors il y a les problèmes des pesticides, mais je pense qu'avant les pesticides même, il y a le manque de ressources et le fait que la ressource n'est pas continue. C'est-à-dire que du fait de l'agriculture, des pratiques agricoles, en partie aussi des pratiques forestières, parce que il y a de moins en moins de diversité des plantes à fleurs et des arbres à fleurs dans la forêt. Ce qui fait que on a quand même des récoltes, parce que les récoltes importantes, ça va être en culture, typiquement le colza. Bon, il y a des endroits où c'est le tournesol, pas ici, mais je pense que c'est plus le climat que les pratiques. Là, c'est vraiment le climat, le terroir qui est pas favorable. Mais il va y avoir le colza. En termes de récolte sur les cultures, c'est à peu près tout ici.
Mais je te coupe, c'est pas gênant parce que ces champs-là, en fait, ils reçoivent aussi des pesticides,
oui,
etc. C'est pas gênant pour les abeilles, s'en foutent de ça.
Je vais en parler. Elles s'en foutent pas vraiment. Mais le premier problème, c'est que le colza, c'est 3 semaines dans l'année. Or, l'année, c'est 52 semaines. Et donc, c'est un peu un problème. Donc, il va y avoir le colza, il va y avoir les tilleuls ici, parce qu'il y a quand même des tilleuls sur la ville et dans la forêt. Il y a quelques arbres qui produisent un petit peu de nectar. Voilà. Mais les grosses récoltes, c'est ça. Et le problème, c'est qu'avec le manque de diversité, il y a de moins en moins de floraison en continu. Là, il y a, bon, là c'est une jachère, mais la moitié de mon rucher, à peu près. C'est une sorte de jachère semi-boisée. Hein, mais, donc, il y a plein de fleurs, de marjolaine, de... Les grands trucs jaunes, je ne sais même plus si c'est de la corne d'or, c'est moins bien d'ailleurs, c'est moins mellifère. Il y a des ronces, un petit peu avant, il y a plein de choses, mais il y a 1000 mètres carrés, il faudrait qu'il y ait des...
Tu fais des plantations ou tu laisses tout naturellement arriver comme
non,
ça
ce que je fais, là j'ai fait des plantations un petit peu de tilleul, parce que sinon il y a énormément d'érables à cet endroit-là, parce qu'il y a un bois d'érable là. Et je pense qu'ils arrosent, enfin ils saturent tout de petits érables. Là, ils en poussent partout. Il y a aussi des épineux divers et variés. C'est pas très pratique parce qu'on ne peut pas rentrer. Donc je laisse ce qui est bien. Donc là, il y a un pommier sauvage là qui est. T'as vu derrière toi, là, il est beau quand même.
Ouais.
Sinon, j'ai rajouté un petit peu, j'ai remis un peu des tilleuls.
Ouais, t'améliores en fait.
J'essaye d'améliorer un peu l'existant.
Ouais. Et puis tu vires aussi ce qui peut.
Ouais, parce qu'il faut
être trop envahissant.
Il faut à la fois, il faut pas qu'elle soit dans un bois sombre en fait, mais en même temps, de plus en plus, il faut avoir un peu d'arbres pour avoir un peu d'ombre. Donc j'essaye d'avoir de mettre en place une sorte de haie, bon, qui est un petit peu lâche, un petit peu déstructurée. Voilà, pour essayer d'avoir à la fois un petit peu de ressources. Hein. Le pommier, lui, il va fleurir en début de saison. Mes tilleuls, bon, ils vont mettre un certain temps avant de fleurir, là où ils en sont, là. Parce que là, lui, c'est le plus avancé, là, il fait 2m30 de haut, là.
Ouais, c'est chouette, tu plantes des arbres pour les abeilles.
Donc on plante un peu des arbres, mais c'est pas ça qui va les nourrir, quoi, en fait. Ça les amuse, ça les occupe un peu. Il faut qu'il y en ait partout, donc. Voilà, donc...
Au niveau de la biodiversité, etc., c'est pas ça, quoi, en fait.
Bah, oui. Alors... J'en viens aux pesticides. Alors ensuite, il y a les pesticides. Donc effectivement, c'est un problème pour les abeilles, hein, parce que les apiculteurs pensent que les insecticides, ça tue les insectes notamment. Mais en fait, il n'y a pas que les insecticides qui sont concernés. Alors il y a les pratiques qui sont promues officiellement. Elles doivent limiter l'impact sur les insectes. Et en particulier, on cherche à avoir des doses qu'on appelle sublétales, c'est-à-dire qui ne tuent pas les insectes. Ça ne règle pas tout, parce qu'un des problèmes, c'est qu'une grande partie de ces molécules sont des neurotoxiques. Et les abeilles, c'est des animaux intelligents, et ben, les neurotoxiques, même à des doses sublétales, ça diminue leur capacité cognitive. Et ces capacités cognitives, ce n'est pas juste pour rigoler dans la ruche entre copines.
Non, c'est
ça leur est également extrêmement utile
survie, quoi.
Pour être efficace, pour récolter, pour entretenir la ruche, pour la défendre. Et donc, il y a un impact qui est indirect sur l'efficacité des abeilles, sur leur capacité à récolter et sur leur capacité à réagir à tout ce qui peut se passer, quoi. Et donc, voilà. Et donc, ça a été très sous-estimé au niveau de cet impact indirect, quoi. Enfin non sublétal.
Aujourd'hui, c'est plus reconnu, tu penses?
C'est reconnu au niveau scientifique.
Oui.
Au niveau des réglementations...
Rien n'a changé.
Ben, en fait, là, je ne sais pas, il y a plein d'articles, là, pour l'instant. C'est en train de changer, c'est-à-dire que ce qui est en train de changer, c'est que jusqu'ici, les évaluations des molécules se faisaient sur des protocoles qui étaient des protocoles définis par les instances réglementaires, mais qui ignoraient la littérature scientifique. Donc ce qui est en train de changer, c'est que maintenant, la littérature scientifique va devoir être prise en compte. Mais elle va devoir, c'est au futur.
Oui, enfin,
c'est pas encore
quand,
fait.
Etc.
C'est pas fait, hein, c'est-à-dire. Puis ça va être pour les renouvellements, et puis il y a des conflits aussi, évidemment. Ouais, il y a des conflits d'intérêts.
Évidemment.
Donc, évidemment. Et donc on est sur des choses quand même lourdes, qui évoluent lentement, quoi. Puis c'est clair que pour les agriculteurs, il faut leur fournir un cadre économique qui leur permette de travailler sans, au lieu de les plonger dans un cadre économique qui leur impose
de travailler
comme ça.
Comment tu auras envie de finir en fait ce reportage sur les abeilles?
J'aimerais bien vous dire qu'on s'aimait du miel local, pris à l'apiculteur du coin, etc. Le problème, c'est que cette année, il va falloir se rappeler de ça pour l'année prochaine, parce que cette année, ça va être très compliqué. Bon, moi, j'ai à peu près le quart ou le cinquième de la récolte habituelle. Et je ne vais pas être le seul. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des apiculteurs souvent un petit peu plus gros que moi qui ont du stock. Donc, eux, ils vont pouvoir travailler avec le stock de l'année dernière. Moi, mon stock de l'année dernière, il est à zéro depuis un mois.
T'as combien de ruches, là, par exemple,
ici ? Il y en a, je ne sais plus. Il faut compter.
Parce que je crois qu'il y a deux spots, non, de, ouais, de ruches.
En tout, j'en ai une vingtaine, quoi. Mm-hmm. Je suis un petit amateur.
Moi, j'ai eu la chance de goûter ton miel et il est absolument délicieux.
En plus, on avait fait une petite visite, là, et vous aviez eu droit à un cadre de miel frais.
Ah oui, on s'est régalé.
Que vous aviez pillé.
On s'est carrément régalé, ouais. Je te remercie beaucoup, Paul.
Au revoir et bonne journée.
J'étais avec Paul Crubillet des Ruchers d'Eugénie à Pierrefonds qui nous a parlé des menaces qui pèsent sur les abeilles. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.